rebond.
Indépendance. Meuf. Indépendance.
Être ventre.
Serre.
Savoir.
Savoir.
Les quenouilles. Bonjour les quenouilles.
Salut.
Salut.
Oh,
salut.
C'était des petits bonjours, ça.
Et bonjour.
Ah, salut. Okay.
Alors, ici, Quenouille Arimata, on a autour de la table Quenouille Valentine, Quenouille Aliette, Quenouille Cécile et Quenouille Delphine.
Et Quenouille Leslie.
Et Quenouille Leslie.
Branchée à l'apéro.
Ouais. C'est, ouais, voilà. Et donc, c'est à mon tour de proposer une intro à cette émission. Alors le thème, le mot aujourd'hui, c'est passe-droit. Comme une bonne élève, j'ai commencé à chercher dans mon dictionnaire historique de la langue française qui n'est jamais à court d'idées. Oui, mais voilà, passe-droit est composé. Il y a un tiret. Mon correcteur automatique veut me corriger. Le tiret est obligatoire, sinon ça clignote. Et tout se complique. Point de passe-droit dans le dico, mais bien passé d'un côté et droit de l'autre. En plus, c'est dans des volumes différents du dico, ce qui n'a pas facilité la chose. Je jalouse un peu le passo-doble sur la même page que passé, qui lui, malgré son tiret, a droit à son article. Pourtant, le tiret de passo-doble nous parle de danse et de corps, voire de mise à mort, puisque c'est la musique jouée dans les corridas. Ah ben voilà. Passo-doble, danse. Tandis que passe-droit se coltine son tiret comme une colonne vertébrale, un corset, comme une injonction, y aller droitement, sans tortiller du cul. Voilà donc une décomposition obligée, passé et droit. Au passage, je m'interroge. Passer droit et bénéficier d'un passe-droit sont-ils du même ordre, de la même loi ? Passer est issu du latin passare, traverser ou traverser un lieu, nous dit-on. On verra qu'il sera en effet question de traverser dans cette émission. Je suis perdue.
C'est la rentrée, c'est normal.
C'est ça.
J'ai même pas mes copions.
Voilà, ça y est, j'ai retrouvé mon copion. Donc il sera en effet question de traverser dans cette émission. Des traversées qui devraient octroyer de nouveaux droits. Car le droit, voilà la complication. Au début, le latin nous indique « sans courbure, direct ». Puis le sens s'étoffe, juste, régulier, bon, pour finir par justice ou application de la loi. Comme si la loi était toujours synonyme de justice. Mais passons. Avançons, passons droit dans nos bottes. Et pour se lancer, les bottes de 7 lieues de Rage Against the Machine.
Do what they told you.
but those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Killing in the name of. Now you do what they told you. 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 Now you're under control. Now you do what they told you. Now you're under control. Now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you.
Excusez-moi, je finis mon vin. La vie est dure chez les quenouilles. Avant, je pense, de passer au chapitre des expressions. On était resté sur le passo doble de cette merveilleuse introduction. Et j'avoue que je suis celle qui a tiré de ses petites mains pas si blanches le mot de passe droit, puisque le principe des quenouilles, pour rappel, c'est quand même de tirer des mots dans le dictionnaire une fois par an, totalement au hasard et sous huissier de justice.
Et voilà qu'on le fait pour la... Enfin, nous, pas forcément celles qui sont en studio maintenant, mais les autres que nous, les nombreuses que nous sommes, pour la 7e saison consécutive.
Ouais, c'est quelque chose quand même. On a même droit au pop-corn aujourd'hui. Et chapitre des expressions. Donc, passe droit, je me suis dit, oulala, on va commencer fort. On entend du passe au double. D'ailleurs, on aurait pu en mettre peut-être, hein, je me dis, au final. Ouais, une petite corrida à l'intérieur ici. Ouais. Mais moi, ce qui m'est venu irrésistiblement, c'est d'abord le mot passereau. Puis passer l'arme à gauche. Et je me suis dit, mais c'est passé dans le vernaculaire, passer l'arme à gauche, tout le monde pense savoir ce que ça veut dire. Globalement, j'ai eu, oui, c'est se suicider. Non, c'est pas ça. C'est tout simplement mourir. Oui, effectivement, mais pourquoi passer l'arme à gauche? Pourquoi une espèce de vocable comme ça, hyper belliqueux? Mais d'après ce que j'ai lu...
Juste, je t'interromps une seconde, parce que tu l'as écrit dans la conduite, ce qui me permet de constater que c'est L'ARME, donc effectivement belliqueux, alors que dans ma tête, ça a toujours été l'arme.
Ah, la larme.
La larme. Ouais, comme
quoi. Allez, c'est trop mignon.
Bah, comme quoi.
Je viens de vivre une grande révélation.
Non, mais sérieusement?
Bah oui.
Passer.
Ah, oh, c'est génial. Eh ben,
Valentine de papier machine parmi nous.
Dans ma tête, c'est les yeux qui se retournent vers l'intérieur et tu meurs.
Mais tu m'offres une espèce de
c'est
super transition
génial,
pour
j'adore.
Après. Mais juste terrible, quoi. Parce que il faut savoir qu'on essaie de... Voilà, quand même faire circuler un peu le fil dans les quenouilles. Et le passer l'arme à gauche a rebondi sur un texte que va nous partager tout à l'heure Aliette, que je vous invite à rester pour l'écouter. Et donc, le passer l'arme à gauche de maintenant me fait totalement revisiter ce que je vais pouvoir dire. Ça y est, os nasal dans le cerveau, c'est fini, je meurs. Voilà. Et donc, passer l'arme à gauche, mourir. Mais en fait, ça nous viendrait des guerres napoléoniennes. Et au XVIIe siècle, lors des funérailles militaires, les soldats tiennent leur fusil dans la main droite. Et pour rendre honneur et hommage aux défunts, au signal, ils le font passer dans la, dans la main gauche, canon tourné vers le sol, d'où le passer l'arme à gauche. Donc, au final, ce ne sont pas les morts qui passent l'arme à gauche, mais les vivants pour rendre honneur aux morts.
Ça, c'est intéressant.
Voilà. Et c'est un beau retournement de situation.
Il pleure vers le fond.
C'est trop génial.
Bon, je crois que tu avais une autre expression à partager
avec
nous.
Oui, en fait, lors d'une discussion avec Kenouigel, qui n'est pas là ce soir, et qui disait, je crois qu'on était toutes les deux d'accord sur le fait que ce truc de passe-droit, ça ne nous inspirait pas du tout. On trouvait que ce n'était pas un chouette mot. Et on disait, on préfère passe-partout.
Alors, je suis d'accord avec vous.
On n'aimait pas ce que ça... Alors non, il est interdit, ça n'a rien à voir avec Fort Boyard. Par contre, avec le monde merveilleux de la serrurerie. Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux que cette, cette invention de la clé? C'est quand même fascinant, les clés.
Disait Louis XVI.
N'est-ce pas? La clé qui permet d'ouvrir les portes et le passe-partout, c'est avant tout un mot de serrurerie qui est cette clé qui permet d'ouvrir toutes les portes. C'est quand même assez fou. Et alors, on discutait et on se disait pourquoi on aurait envie de plébisciter passe-partout au lieu de passe-droit, avec cette idée que les deux sont des expressions, des mots qui désignent la possibilité un peu
d'entrer,
de se faufiler, d'entrer un peu partout. Mais dans un cas, on a plus cette idée de la malice, de, c'est un peu de trouver la bonne combine et de juste réussir à ouvrir toutes les serrures par son habileté et son polymorphisme de la clé passe-partout. Alors que le passe-droit, il y a vraiment cette idée de privilège, de dépasser quelque chose au détriment des autres, un peu.
Oui, puis d'être avec la loi ou contre la loi, alors que le passe-partout, c'est trouve ta combine.
Exactement.
C'est pas en question d'une loi, c'est en question de la situation là où t'es.
Exactement. Vous savez que c'est aussi autre chose, un passe-partout.
Qu'est-ce que c'est alors, un
passe-partout? C'est un mot qui veut aussi dire quand tu encadres quelque chose.
Ah oui, c'est vrai.
Tu peux mettre un petit passe-partout pour mettre en valeur ta.
Et ça, je me suis vraiment jamais dit pourquoi. Pourquoi on dit ça, on appelle ça un passe-partout?
Mais je ne sais pas. C'est là ce soir, en y pensant, je vous entends parler de passe-partout, passe-partout, passe-partout.
Et
ma mère a fait beaucoup d'encadrement dans sa vie et a donc utilisé beaucoup de passe-partout. Je ne sais pas, je crois qu'elle se sentait enfermée dans sa vie et peut-être que ça l'a aidée.
Donc on vient de passer de passe-droit à encadrement.
Maman d'Aliette, si tu nous écoutes ce soir, spéciale dédicace. Ça commence bien cette année de quenouille, on dit vraiment, on parle de tout et n'importe quoi. En tout cas, voilà, on préfère les passe-partout aux passe-droit.
Oui.
Qui évoque cette notion qu'on n'aime pas tant de privilèges. Et du coup, bah, pourquoi pas.
Mais Fort Boyard, on n'aime pas trop.
Non plus. Mais on aime bien Patti Smith.
On aime bien Patti
Smith. Qui a une chanson qui s'appelle Privilège. Je propose de l'écouter maintenant.
On l'écoute.
Leave me, I'll leave me. cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Ah, damn, goddamn, 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 yeah.
Alors, c'était Patti Smith avec Privilège. Et justement, au sujet de Privilège, Delphine a invité Cécile pour nous parler de quelque chose.
Alors, bienvenue à Cécile déjà. Je sais que ça peut être impressionnant de se retrouver avec des pop-corns, des quenouilles, du vin et une rentrée.
C'est vrai qu'on est hyper sérieuse.
C'est notre introduction, mais en confiance.
Il y en a qui font des rentrées littéraires dans des cercles parisiens. Nous, on mange des chips et des olives. Ça va, je pense que dans le genre,
ça se passe plutôt bien.
Mise en bouche, voilà. Et donc, on parlait d'introduire Cécile avec un passe-partout, c'est ça? Pour nous passer des passe-droits. Mais toi, t'as entendu autre chose, en fait, quand t'as entendu passe-droit?
Oui, parce que du coup, le mot passe-droit, il m'a donné une autre idée. Mais je l'ai dit dans quelques minutes.
Tu peux la dire
Dans quelques...
Non, je voulais un peu introduire... on va arrêter avec introduire. Donc, Cécile, qui travaille, une fois n'est pas coutume, au SPF Justice. Donc, ça donne un espèce de truc comme ça, genre, tu vois, ça arrive. Ça donne un cadre comme ça. Mais en fait, pas du tout.
Un passe-partout.
Tout à fait. En fait, elle explose le système de l'intérieur. Vous allez tout comprendre.
C'est ce qu'il nous faut.
Ouais. Eh bien, Cécile, dont je me suis rapprochée durant cette vilaine pandémie et durant cette vilaine imposition du pass sanitaire, eh bien, quand bien même Cécile travaille au SPF Justice, ce n'est pas la seule corde à son arc. Et elle travaille, pour la connaître, sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets différents et dont la mise en place avec des associations comme Wake Up Belgium, I Love My Constitution, Trace Ton Cercle, Charte à 21, travaille sur un peu la conscientisation des citoyens, mais pas que, à ces idées de passe-droit. Et alors là-dessus, tu vas peut-être le prononcer différemment,
ouais.
Mais je te laisse embrayer.
J'embraye, du coup. Parce que moi, le mot passe-droit, il m'a tout de suite évoqué quelque chose. Alors, je sais que pour vous, ce n'était pas spécialement le cas. Mais travaillant dans le droit, c'est vrai que le mot passe-droit, il est venu tout de suite sonner sur quelque chose qui rappelle le pass sanitaire. Mais tout d'abord, j'ai eu envie de le décomposer, ce mot, parce que je l'ai entendu autrement. J'ai entendu passe-droit. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais donc de le décomposer et de passe-droit. Et du coup, j'ai essayé d'écrire un petit texte là-dessus. Et là-dessus, ça va aller. Et je me propose de le lire. Je l'écris dimanche. Donc imaginez, aujourd'hui il fait un peu gris, mais imaginez dimanche il faisait beau. Et donc aujourd'hui c'est dimanche. Il fait beau, je suis en terrasse et je m'essaye à écrire quelques mots pour revenir sur un phénomène qui a fait partie de nos vies pendant environ 5 mois. Le pass sanitaire ou CST. Il paraît si loin et si près en même temps. On a envie de dire un jour dans une contrée lointaine, mais non. C'était il n'y a pas si longtemps, et c'était dans nos contrées. Si vous vous souvenez, il a été retiré de nos vies il n'y a que 6 mois. Passe-droit. Une période où les endroits qui faisaient vie, comme les théâtres, les cinémas, les musées, les restaurants, les stades, les centres sportifs, les salles de concert, les bars, les stand-up, les clubs de musique, et j'en passe, ont été limités pour certaines et certains d'entre nous. Passe-droit. D'être ensemble, de partager, de participer, de rire, d'observer, de s'amuser, de faire ce sport qu'on aimait tant, d'écouter, de sentir ou de ressentir, de goûter, de discuter, d'être pris par des émotions. Passe-droit, sauf sous conditions. Un passe qui a régulé nos façons de vivre, qui a divisé les êtres humains entre celles et ceux qui l'avaient et celles et ceux qui ne l'avaient pas. Des jugements aussi, portées les unes les uns sur les autres, quant à la détention ou non de ce pass, et des raisons pour lesquelles on a décidé de l'avoir ou non. Des catégorisations, des valeurs et des choix affirmés ou critiqués, de la violence qui s'en est engendrée. Mais aussi, rappelons-le, des rapprochements, des mouvements, des réflexions, des envies qui se sont créées ou renforcées. Bref, des passe-partout aussi. Du soutien, des projets et des stratagèmes pour sortir de la division, de la stigmatisation et de l'isolation. Alors je vous propose de se souvenir de cet automne 2021 et de ce début d'année 2022. Souvenons-nous de ces mois d'octobre, novembre, décembre, janvier, février et mars. Gravons-les dans nos mémoires. Parce que l'être humain a tendance à oublier, à refouler. Mais le devoir de mémoire est une résultante de ce passe-droit. Il faut se souvenir. Poser des mots sur ce qui s'est passé. Car l'histoire a tendance à se répéter. Et même si contre toute attente, cette période est passée et qu'on a réussi à réapprendre à vivre, elle a tout intérêt à être nommée pour que... Pardon, je recommence. Elle a tout intérêt à être nommée pour que s'ancre dans nos esprits le fait que rien n'est acquis, pas même nos droits les plus fondamentaux. Voilà ce que le mot passe-droit m'a donné envie de dire aujourd'hui.
Merci Cécile.
Oui, merci beaucoup. C'est un beau retournement de mots par le biais des sons. Et alors, on lance Myriam Makeba ? Notre conductrice d'émission n'a pas de micro.
Je n'ai pas de micro, j'ai un micro.
C'est ce mois de septembre que je lance de mieux en
mieux. Ce soir, maintenant, nous allons écouter Makeba, Myriam, je vais dire Myriam. Myriam Makeba, je ne vais pas dire son vrai nom, qui est trop compliqué à prononcer.
Ah si, hein. Ah si, il faut le dire.
Lance-toi.
Hein.
Zenzile Makeba Kwashu Nguvama.
Quelque part, elle rit, je sais.
J'entends. Et la chanson ? Et le titre de la
et
chanson ?
Et la chanson ?
Le titre original. Lance-toi. On a confiance
alors,
en toi.
Alors, ici, une suite de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, à peu près 13 lettres qui n'ont pas du tout une organisation commune. Je vous laisserai découvrir ça sur nos pages Facebook ou sur nos réseaux Internet. Merci.
Joli. C'est Myriam Makeba.
Souvent, je me fâche parce que vraiment, ce n'est pas un bruit. Ça, c'est ma langue. Par exemple, les gens m'appellent Myriam Makeba. Ça, c'est pas tellement mon nom. Mon nom, c'est Zenzile. Kamakeba, Kakwashu, Gouvama, Ketile, Nengwa, Bantana, Balom, Zitwa, Founoba, Kiaboulisa, Batengeli, Potili, Yopiada. Les colonisateurs de chez nous, en Afrique du Sud, appellent cette chanson Click Song parce qu'eux, ils ne savent pas dire où on va toi. Hikriha lendela ke kukongotwane Hikriha lendela kutang kukongotwane Hikriha lendela kweyang kukongotwane Hikriha lendela kutang kukongotwane Selekabele katapake hayim kukongotwane
Alors c'était Myriam Makeba. Je vais repréciser quelques infos. Je vais faire l'effort. Le titre s'appelait « Konkotwame », qui est un chant de mariage que les colonisateurs avaient rebaptisé « Click Song ». Je parle de colonisateur parce qu'elle vient d'Afrique du Sud, je l'ai déjà dit.
Non mais c'est, on est content de le savoir.
Voilà, elle vient d'Afrique du Sud et elle a été malheureusement exilée pendant près de 30 ans. Et donc voilà, et on l'aime. Et maintenant, c'est Aliette, Kenouille Aliette, qui va nous présenter une pensée qui lui a été inspirée par un bouquin de Didier Huberman. Et c'est ça, hein ? Oui, c'est ça.
Je vais redire.
Tu vas redire. Et qui enchaînera sur une lecture d'un livre qu'elle a écrit. Et qu'elle
co-écrit.
Co-écrit, c'est vrai, avec Ali. et elle va aussi se re-annoncer elle-même pour son livre, je pense.
Elle était un symbole d'autonomie pour nous toutes.
Ah bah moi, franchement, toute seule, je fais rien. Hein. C'est une drôle d'autonomie quand même.
Alors, on t'écoute.
On t'écoute sur cette digression sur Didier Huberman.
Alors, passe droit. Moi, ça m'a renvoyé vers ce livre que j'ai apporté parce que c'est pas le tout de parler des livres. Encore faut-il parfois les montrer. Passer quoi qu'il en coûte, ça s'appelle. Je sais pas si quelqu'un, quelqu'une ici le connaît.
Un peu.
Ah,
moi non.
Ok.
C'est la magie.
Bon, alors les auteurs sont Georges Didier Huberman ou Huberman, je ne sais pas comment on prononce.
Ok. Moi j'ai toujours entendu Huberman.
Moi j'ai toujours dit Huberman aussi.
Okay. Mais est-ce qu'on a toujours raison, ça ?
Je ne sais pas.
Pas toujours.
Moi j'aurais dit Huberman, mais tout à coup je me demandais. Et Niki Djanari, je ne sais pas non plus aussi comment est-ce qu'on accentue ce nom. Et c'est publié aux éditions de Minuit, une chic maison d'édition. Et il m'a été offert pendant les années où j'ai, moi, travaillé à écrire un livre avec Ali Talib, un livre qui a été écrit longtemps après avoir été... un livre qui a été publié quelques années après avoir été écrit, parce que ça a été un peu compliqué, toute cette histoire, et c'est de ça dont je voulais vous parler. Voilà. Donc Ali est un Irakien, et il est passé sans droit en 2015 à travers 7 pays pour venir là où il pensait que la paix existait. La paix qui serait un droit obtenu à l'arrivée et qui permettrait tout, mais pas du tout. Ça, peut-être que je l'apprends à personne. J'ai tapé sur le moteur de recherche de mon ordinateur « Personne morte dans la Méditerranée » et je vous livre ce que j'ai trouvé. Parce que c'était un peu, en fait, ce livre « Passer quoi qu'il en coûte », je lis un peu la quatrième de couverture. « Passer quoi qu'il en coûte, plutôt crever que de ne pas passer ». Donc je ne peux pas vous lire tout le livre parce que c'est long. Mais donc, sur Google, la première occurrence de personnes mortes dans la Méditerranée, c'est sur un site de l'OIM qui donne un chiffre de 3771 décès en 2015. Pas remis à jour depuis, alors j'ai pas cherché pourquoi, est-ce que c'est, d'où venait le bug en fait, mais c'était quand même surprenant. Et pourquoi pas, on ne sait pas. C'est quoi cette page abandonnée ? Alors l'OIM, c'est écrit en haut à gauche, c'est l'ONU Migration. Pour une migration au bénéfice de tous, sans donner à jour. Je me souviens que des personnes avec des sacs en plastique blanc au logo OIM, en grand, étaient à l'aéroport ce jour de 2018, où Ali Talib, plus tellement enclin à croire en la paix et aux droits, est reparti en Irak avec un sac offert par l'OIM. C'était donc la deuxième fois de ma vie que je voyais ce logo. Donc en 2018, et puis là, pour préparer l'émission des Connouilles, dimanche aussi, comme toi, Cécile. Donc, Milady était là, Quenouille Milady, et je me souviens qu'elle était très fâchée après l'OIM et les sacs en plastique. C'est vrai que c'était des plastiques blancs très épais, et c'était bizarre d'offrir ça à des gens qui repartaient, notamment Ali vers l'Irak, un pays tristement célèbre pour la mort, le non-droit et le chaos. Alors le deuxième lien sur Google, c'est le site du Monde et on trouve toujours la même année 2015 et dans l'article un lien vers un site qui permettrait d'en savoir plus, The Migrants File, et ça fonctionne pas. Alors en 3, le site de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, alors j'ouvrai les guillemets, je cite un peu, en 2021, 123 300 traversées individuelles ont été rapportées, et avant cela, 95 800 en 2020, 123 700 en 2019 et 141 500 en 2018. Malgré cette baisse du nombre de traversées, le nombre de pertes en vie humaine a fortement augmenté. L'année dernière, quelque 3231 personnes ont été déclarées décédées ou portées disparues en mer, en Méditerranée et dans le nord-ouest de l'Atlantique, contre 1881 en 2020, 1510 en 2019 et plus de 2277 en 2018. Un nombre de personnes plus important encore pourrait avoir perdu la vie sur la route à travers le désert du Sahara et dans les zones frontalières éloignées, fermez les guillemets. Le nombre de personnes qui pourraient avoir perdu la vie sur la route à travers le désert n'est même pas hypothétiquement chiffré. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le décompte des morts en supprime 1000 d'un coup. L'OIM pour 2018 nous a dit 3771 et le HCR 2277. Alors franchement, c'est curieux. Quenouille Delphine, tu veux dire quelque chose à ce sujet ?
Moi je disais juste que quand j'entends des listes de chiffres comme ça, d'office ça m'anesthésie.
C'est terrible.
Mais je pense qu'il y a un véritable effet là-dessus, c'est-à-dire qu'on est d'un seul coup déconnecté
dans tous les cas de figure. C'était la même chose avec le décompte des morts Covid. Hein. Donc il y a,
et oui, exactement,
cette répétition des chiffres qui...
Mais en plus, quand tu te rends compte que les chiffres ne sont même pas reliés à une réalité, puisqu'entre deux sites, ce n'est pas les mêmes chiffres, les sites ne sont pas remis à jour, c'est particulier, quoi.
C'est des statistiques pour l'OIM, quoi. C'est...
Bon, en tout cas, ce serait intéressant de... Faudrait... Bon, je ne sais pas si tu as regardé sur les sites internet, mais s'ils sont exposés la manière et les protocoles à partir desquels ils calculent ces chiffres.
Ça, je n'ai pas, j'ai pas regardé.
Parce qu'on peut se dire que c'est probablement, comme tu dis, on ne parle pas de la traversée du désert, mais du coup, est-ce que...
Non, puis n'ergotons pas. Ce n'est pas 2000, 3000, c'est trop de gens, point
barre.
Beaucoup
trop de gens.
Et c'est certainement le double de ce qui est annoncé d'office.
Un peu comme les violences conjugales ou les abus sur les enfants. On ne comptabilise que ceux qui sont rapportés, tenus dans des livres, qui seront oubliés dans tous les cas de figure. Donc on imagine bien que c'est un chiffre qui dépasse bien plus que ce qui est annoncé par les beaux bureaux statistiques des agences de l'ONU.
Moi, je n'avais jamais regardé, mais bon, donc là, je me suis dit, tiens, parce que j'avais ce livre, Passe droit, passez quoi qu'il en coûte, et toute cette histoire de mourir en passant, m'a ramené vers les sites. Alors, ce livre, Passez quoi qu'il en coûte, il m'avait été offert par une autre personne avec papier qui m'a aidé pour la rédaction de, du livre qu'on a écrit avec Ali, qui a finalement été publié, qui s'appelle Maman, je suis un réfugié, publié chez Academia en 2019, et dont je vous lirai le passage qui concerne vraiment la mer, qui est l'endroit qui fait vraiment peur aux personnes avant même de prendre la moindre embarcation. Tout le monde sait que voilà, c'est là que tout se joue, quoi. Et donc, ce livre, Passé quoi qu'il en coûte, moi, je ne l'ai jamais lu, en fait. J'imagine que dans vos bibliothèques, vous avez aussi des livres que vous ne lisez pas.
Plein.
Mais en fait, je crois qu'il y a quand même un côté un peu où à un moment, on n'arrive plus à prendre plus de violence, même si en fait, je pense que peut-être après l'émission, je me dirais, allez, ouvre-le et lis-le, mais je n'ai jamais réussi à le lire, même pas pour, avant l'émission, quoi. Pourtant, il n'est pas gros, je pense qu'il y a vraiment moyen de le faire. Si l'une de vous le veut, je pourrais aussi l'offrir à une quenouille, ça serait pourquoi pas une bonne idée. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous, les quenouilles, avec les droits et la conscience qu'ils ne passaient pas, les droits que nous avons et tant d'aimés qui en manquent. On ne se passe pas les droits comme ça, on ne s'en passe pas comme ça non plus. Quand le mot est sorti du dictionnaire, moi, je n'avais pas envie de venir. J'avais aucunement envie de venir parler de passe-droit. C'est bloquer l'impression que quelque chose pourrait effacer ce qui s'est passé en Europe depuis tant d'années et continue sans beaucoup de protestations. Passe-droit fait partie des mots maudits qui n'ont pas de chance. Donc en fait, je vois qu'on est un peu toutes d'accord avec ça, quoi. Les droits, c'est devenu un domaine gardé avec plein de morgues et de mortes qui n'ont bien souvent même pas de nom. Ils n'avaient pas le droit de passer, donc pas la peine de les nommer. Le passe-droit est le mot qui rappelle que pour l'exercer, ce droit de passage, il faut être prêt à mourir sans que personne le sache. Donc j'avais en fait le livre qui a été publié en 2019... J'ai jamais vraiment fait de lecture non plus de ce livre parce qu'il a été coécrit à partir de 2015 et c'était quand même un gros travail. Il faut savoir qu'Ali Talib qui a coécrit avec moi, c'est lui qui rêvait d'écrire ce livre. Il avait l'idée qu'en Europe, on publie des livres, ce qui est plus ou moins interdit en Irak parce que tu peux te faire assassiner assez vite, quoi, avant même peut-être qu'il soit publié. Donc il y a cette traversée de la mer que je vais vous lire. La mer, 2015. 26 ans. Nous nous rapprochons de plus en plus de la Grèce. C'est ma troisième tentative pour traverser la mer. Peut-être à cause de la peur, le bateau semble immobile. Les mêmes vagues clapotent et les mêmes mots sortent des bouches des passagers. Tout le monde prie. Même Zizou, qui est saoul et qui ne devrait pas prier à cause de ça, répète les mots avec les autres. Il y a de la lumière sur l'île. C'est notre guide et notre espoir. Les enfants pleurent. Les femmes ont peur. Tout le monde écope pour garder le bateau pneumatique au sec. Pour ne pas couler, il faut écoper. Nous n'avons pas de récipient. L'eau monte, nous vidons les bouteilles d'eau douce pour écoper avec. Ceux qui n'ont pas de bouteilles utilisent leurs t-shirts. Nous sommes des as de l'écopage. Un bébé pleure sur les genoux de sa mère, il pleure de plus en plus fort chaque fois que l'eau le touche. L'eau stagne de plus en plus. On dirait que le bateau se remplit d'eau sans avancer. Je demande à la mère si elle a besoin d'aide, elle répond non. Elle est courageuse, mais il a un peu froid. Nous déshabillons le bébé et jetons ses habits mouillés à la mer. Je prends mon écharpe verte, celle qui me porte chance depuis longtemps, et je la donne à la mère pour qu'elle enroule le bébé dedans. Il en a plus besoin que moi. Là, j'y pense. Nous pouvons couler. Quand j'essaye de me rappeler l'enchaînement, je bute toujours sur quelque chose. Je suis le seul sans gilet sauvetage, j'ai donné le mien à une femme qui n'en avait pas. C'était aussi un geste de défi envers la mer. Je n'ai pas peur d'elle, je la traverserai sans protection. Les prières ne s'arrêtent pas. Quelqu'un crie qu'il a vu des gardes-côtes. Zizou sort son couteau et je prends le mien aussi. Nous nous dressons face aux autres. Si les gardes-côtes essayent de nous stopper, on s'arrête sans discuter. Nous avons des enfants et des femmes avec nous. Les histoires de réfugiés qui crèvent les bateaux pneumatiques pour que les gardes-côtes ne puissent pas les renvoyer en Turquie sont nombreuses. Dans ces cas-là, plus de la moitié des migrants tombent dans la mer. Aucune femme, aucun enfant de notre bateau ne doit couler. Le bruit d'un hélicoptère se fait entendre. Il va plus vite que le bateau, il fait sombre. Rien n'indique d'où il vient exactement, il s'approche. Quelques minutes après, il nous éclaire avec sa torche. On y voit comme en plein jour. La prière se fait plus fervente, comme si Dieu entendait mieux quand on crie plus fort. Tous les enfants sans exception pleurent. Le chauffeur du bateau dit « Nous sommes repérés, mais nous pouvons encore pénétrer dans les eaux grecques, c'est notre seule chance. » Les prières changent dès que le chauffeur parle. « Que Dieu nous laisse atteindre les eaux grecques. » Je ris nerveusement. La prière est moins ambitieuse. Il n'est plus question de toucher terre. Comme si diminuer la distance pouvait faciliter la tâche de Dieu. Zizou ne sait pas que j'ai très peur, plus encore que lui qui s'est saoulé pour supporter le passage. Il ne sait pas nager. Madi et sa famille ne savent pas nager. Si quelque chose arrive, qui dois-je sauver? Je me noie là-dedans. Qui sauver de la noyade? Je sais et ne sais plus. Je suis tellement tétanisée par ces questions que j'oublie l'hélicoptère et les gens autour de moi. Si nous coulons et que Zizou m'appelle à l'aide, je ferai quoi? Madi attrape ma jambe. Il me réveille comme si je sortais d'un mauvais rêve. S'il te plaît, Ali, ne laisse pas mon fils couler dans la mer. Promets-le-moi. « Regarde-le, ce n'est qu'un bébé. » Son intervention me sort complètement de ma torpeur. « Nous devons accélérer. » Le chauffeur répond que c'est impossible si nous accélérons. Les vagues nous briseront. Nous prenons trop l'eau par l'avant du bateau. Je crie aux passagers de reculer vers le milieu pour que deux d'entre nous puissent se pencher sur la proue et la soulever. Ainsi, le bateau pourra flotter plus facilement et gagner de la vitesse. J'aide tout le monde à se mettre en place. Les deux hommes se penchent et tirent le gros boudin de plastique vers eux. Ça marche. La proue est dégagée. Je redemande au chauffeur d'accélérer. L'eau s'accumule moins. Le bateau file vers les eaux grecques. Le projecteur nous éclaire pendant plus de 15 minutes, jusqu'à ce que l'un de nous reçoive un message sur son téléphone. « Bienvenue en Grèce. » Il crie la nouvelle. « Nous avons réussi. C'est un miracle. » Après ça, l'hélicoptère tourne son projecteur vers l'île et il nous quitte quand les gardes-côtes arrivent plus près de nous. L'hélicoptère n'était pas là pour nous stopper comme nous l'avions cru, mais pour nous guider.
Merci Aliette.
Merci Aliette. On va écouter quelque chose.
D'abord, il y a eu la paix. La paix qu'on entretenait chacun en posant un flingue sur la tempe de l'autre. Puis il y a eu les hommes. Beaucoup d'hommes. Que des hommes. Pour bien faire tenir tout ça, on a mis des murs. Dans les têtes, dans le ciel, dans le désert, dans la mer. Fallait pas qu'on s'inquiète. On avançait, sans progresser certes. On faisait croire, on avançait. Mais c'est comme tout. Pendant une chute, on croit toujours voler. Si c'est la fin de ce monde, ok. Si c'est la fin de ce genre humain sans humanité, ok. Si c'est la fin de l'autodestruction, ok. On nous a trop demandé d'unir nos forces. On pourrait unir nos faiblesses. Unir nos faiblesses. Unir nos faiblesses.
Allez, reste, allez, reste, allez, reste, allez, reste, on est fort. C'est pas demain la mec, c'est putain qui nous fera la mort.
Nous, nous sommes le sol qui se dérobe sous nos pieds. Nous, nous sommes les témoins du monde qui régresse. Nous, le poing dans le visage de la sagesse. Nous, nous sommes la preuve du contraire. Les coups de pied dans la portière. Nous, nous sommes la réussite par l'échec. Nous, des mauvaises filles, des mauvais mecs. Nous, nous sommes des attardés du cœur. Quelques balles dans le corps. des présumés capables, des roues un peu sales. On dégenre, on dérange, on dérange, on dérange, tu dégages, nous. Nous on marche la nuit dans la vie, soit on s'emmerde, soit on fuit. Nous sommes des cartes bleues bloquées, nous sommes des rendez-vous ratés.
Martin Luminé avec le morceau Monde. Et Ali, pendant le morceau, on se disait toutes que ce témoignage était vraiment frappant, émouvant, compliqué, voilà. Et du coup, déjà, est-ce que tu as des nouvelles d'Ali ?
Pas depuis... j'en ai eu un peu depuis début 2022. On est resté assez longtemps en contact, comme il est parti en 2018.
Parce que ce qu'il faut savoir, excuse-moi, je te coupe, ouais. C'est qu'après ce récit effrayant, et certainement après de multiples péripéties, je ne sais pas comment appeler ça, Ali a fini par arriver à Bruxelles, où tu as fait sa connaissance.
Alors, j'ai fait sa connaissance presque à son arrivée, voilà. Parce qu'en fait, il cherchait partout quelqu'un pour écrire un livre. Donc ça, c'est quand même intéressant à dire par rapport à ce qui nous amène aujourd'hui avec la lecture, parce qu'il était persuadé que c'était la première chose qu'il devait faire en arrivant, faire écrire son histoire. Il ne pensait pas écrire lui-même. Tu veux dire un truc ?
Oui, je réagis parce que j'avais aucune idée de la raison pour laquelle vous vous étiez rencontrés, si c'était un pur hasard. Et d'entendre ça, je trouve ça tellement poétique quelque part. Tu vois ?
Oui, c'était incroyable. Donc, il était au parc Maximilien. Je ne sais pas si vous y êtes aussi allé en 2015, quand il y avait les tentes.
Un peu plus tard, je pense. On a accueilli aussi quelques personnes à la maison qui venaient d'Érythrée plus tôt.
Et du coup, voilà, moi j'allais aussi là-bas et donc il demandait à tout le monde, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui peut écrire un livre ? Et donc comme tout le monde se parlait, à un moment quelqu'un m'a dit, ah mais toi, comme tu écris des livres, il faut que tu rencontres Ali. Et alors ce jour-là, il était interviewé par des étudiantes, je ne sais plus de quelle école, peut-être l'ULB, voilà. Et donc il faisait ses entretiens en tant que... pour témoigner d'où il venait et tout. Il était hyper enthousiaste, quoi. On avait l'impression que c'était le plus beau jour de sa vie. Il pleuvait des cordes, c'était l'enfer. Et lui, il était super content parce qu'en Irak, il ne pleut jamais. Et donc, c'est un symbole de très positif, la pluie, quoi. Et du coup, il m'a tout de suite dit qu'il voulait écrire... qu'il y ait un livre de sa vie. Et un truc qui m'a quand même marqué, parce que c'est pas... moi j'ai rencontré plein de gens qui m'ont dit « Ah, il faut écrire ma vie ». Je ne sais pas si ça vous est aussi arrivé, mais moi ça m'arrive très souvent. Et en général...
Nous on n'écrit pas des livres.
C'est très compliqué.
Aliette écrivain public.
Mais c'est compliqué cette question, parce que tu ne sais jamais trop qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est d'ailleurs de ça dont on a discuté par la suite, ce qui l'a amené à écrire lui-même. Parce qu'en fait, le livre a été écrit en grande partie en arabe dans un carnet que j'ai encore. Et puis traduit, moi j'ai fait la traduction de l'anglais vers le français. Enfin, ça, c'est encore une autre histoire. Mais du coup, le livre a été écrit par Ali en entier, à part la postface que j'ai faite quand il est parti. Et quand j'ai finalement trouvé une maison d'édition... Academia, grâce à un speed dating d'auteur. Enfin voilà, la vie. Ah, parce que par contre, Ali avait beaucoup d'humour, il aimait beaucoup rire, même dans le passage de la mer. Je ne sais pas si vous avez remarqué quand il parlait de la prière, comment est-ce qu'il voyait avec beaucoup d'ironie dans une situation un peu tragique.
On demande
quoi.
Moins quand.
Voilà. Et du coup, bah, Ali, il est en Irak aujourd'hui. Il est retourné. Quand même, la dernière fois où je lui ai parlé, il m'a quand même dit que c'était son rêve, Bruxelles. Oui, c'était pour mon anniversaire. Donc, ça date, il n'y a pas très longtemps. Et il disait voilà, qu'il a refait sa vie là-bas. Il était mécanicien avant de partir. Il est à nouveau mécanicien. Et voilà, il a pu continuer sa vie. Mais c'est quand même pas... En fait, c'est cette question du passe-droit, j'ai envie d'y revenir, c'est que même par exemple, s'il voulait revenir ici, c'est pas vraiment possible, quoi. Donc c'est ça qui est un peu particulier quand même. Ouais, et moi, je peux y aller en Irak quand je veux, si je veux.
La question de la frontière, la circulation, c'est de ça dont il est question. Ouais.
Bon, entre-temps, il est parti mécanicien, il est revenu mécanicien, mais il a écrit un livre.
Oui, oui, bah, tu sais que sur sa page Facebook, c'est encore sa page de... C'est quelque chose qui... Je pense que c'est vraiment la grande aventure de sa vie d'avoir écrit un livre. Il avait commencé un deuxième livre qui était très drôle, qui s'appelait Brussels Have Boobs, Has Boobs, et où il parlait en fait de Bruxelles d'une manière vraiment... Enfin, là, c'était complètement fou et ça partait un peu dans tous les sens, mais je pense que ça aurait pu arriver quelque part s'il avait terminé. Donc voilà, il y a des gens qui... Ça, c'est un autre truc qui, moi, m'intrigue beaucoup, c'est comment parfois des gens écrivent, puis arrêtent et parfois reprennent, on ne sait pas, mais... Mm-hmm. En tout cas, on peut y aller, quoi. Il faut juste pas s'arrêter.
Delphine. Je l'ai reprendre la conduite et là je me dis mais non, pas du tout, c'est que nous et Marie qui s'occupe de ça. Je pense que c'est le vin qui fait effet. Je t'en prie.
Donc après cette usurpation ratée, ce passe-droit,
vous venez d'écouter une tentative de putsch quand même.
Ouais, c'est ça. Je ne me suis pas rendu compte de grand-chose.
Ouais, elle s'est auto-boycottée, en fait. On était là, elle avait le micro, on l'a laissé faire.
Alors, il y a Quenouille Milady qui nous a envoyé un extrait de Chrysélidis Réal, qu'on va écouter maintenant. Alors, Chrysélidis Réal, militante, féministe, femme historique qui a eu une vie à multiples facettes, écrivain, poétesse, militante, prostituée, mère, femme, tout.
Autrice de la passe imaginaire,
est-il écrit ? Autrice de la passe imaginaire.
Qui fait peut-être le lien, puisqu'on est quand même là pour faire.
T'as raison, recentre-moi. Donc, plutôt l'autrice de la passe imaginaire aujourd'hui. Et donc, c'est un extrait. Bah voilà, on va écouter ça.
Ja, im gleichen Heim. Ah ja, und gefällt denen da. Ja, und die Buben. Ja. Ja, Sonja, wie geht es dir?
Ah, mais moi, à l'époque, hein, je cherchais absolument l'amour. Mais je ne veux pas dire que je le cherchais parmi mes clients, parmi n'importe lesquels. Mais j'avais toujours cette idée qu'il fallait que je trouve un homme et qu'on puisse s'aimer vraiment. Mais comme j'étais dans une situation financière épouvantable, tous les horizons étaient bouchés, j'avais pas de papier, pas de travail, pas de permis de travail. Mes gosses et moi, on n'était même pas déclarés à la police. Donc il fallait survivre. Alors des hommes venaient coucher avec moi en me payant. Évidemment, je m'apercevais quand même que c'était pas l'amour qui les poussait, quoi. Hein, c'était la satisfaction sexuelle, c'était la levée de leur propre frustration, quoi. Une certaine libération qu'ils cherchaient, ou alors une certaine revanche. Il y en a qui venaient se venger. Il y a souvent des clients qui viennent se venger de toutes les frustrations que leur propre mère, leur grand-mère et toute la société entière leur a infligées. Alors ils viennent se venger sur une putain. Et ça leur fait du bien, et la putain doit comprendre ça. Elle doit comprendre, mais elle doit quand même pas se laisser étrangler, par exemple. Il faut avoir suffisamment de diplomatie pour comprendre qu'il y a des tournants dangereux et qu'il faut remettre un peu de gomme pour calmer le type, qu'il reparte content ou même furieux, mais enfin qu'il reparte sans quand même avoir tué la femme. Parce qu'il y a des types qui iraient facilement jusqu'à tuer. Hein. Moi, je sais que plusieurs fois, je me suis battue pour sauver ma peau, clairement. Hein. Et ça, alors, c'est toute une technique hein, qu'il faut avoir.
Ça laisse des cicatrices dans la tête.
Il y a des types qui te sortent des armes, il y en a qui ont déjà les mains sur ton cou. Il faut trouver la parole au moment psychologique, tu trouves la parole qui les désarme.
Mais on la trouve, je crois qu'on la trouve.
Qui fait qu'automatiquement, la violence tombe. Moi, je suis persuadée que la plupart des femmes qui se sont fait tuer ont eu peur. Elles ont eu des réactions de peur. Et le type ayant peur de voir une femme qui a peur et qu'elles ameutent, par exemple, tout un immeuble ou tout un quartier. À ce moment-là, ils ne réfléchissent plus. Ils éliminent la source de la peur, c'est-à-dire qu'ils tuent la femme, et à ce moment-là, il n'y a plus de problème, et ils foutent le camp, puis voilà. Mais je suis persuadée que si une femme avait vraiment le sang-froid et le doigté, hein, la délicatesse et le courage nécessaires pour passer ce moment difficile, elle ne se ferait pas tuer. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, on ne m'a pas tuée. Hein. Quelquefois, je me suis bagarrée à mort, ou alors au contraire, j'ai redoublé de tendresse, j'ai redoublé d'hypocrisie, de diplomatie. Mais en fait, on n'a jamais pu me tuer. Mais il y a des types qui étaient prêts à le faire. Et ça, ça venait pas de moi, ça venait d'eux. C'est des blessures qu'on leur avait infligées et qui se rouvraient au moment psychologique. Hein. Et c'était plus fort qu'eux, ça les emportait. Hein. Il y a des hommes qui sont terriblement blessés dans les clients. Faut pas croire qu'ils vont là pour le plaisir. En réalité, ils y vont presque comme à la mort. Hein. Pour eux, c'est presque une souffrance d'aller faire l'amour. Ils n'ont même pas d'autre moyen d'aller faire l'amour qu'en payant. Et ça les fait doublement souffrir, ça les humilie encore davantage, quoi. Il faut comprendre ça. Moi, je sais pas, moi, il me semble que plus on vit, plus on doit s'élargir, plus on doit comprendre qu'il y a des problèmes et qu'en fait, il n'y a pas de véritable criminalité, il n'y a que des souffrances. Hein. Si on arrive à comprendre ces souffrances, et puis à les soulager tant soit peu, ben, le monde va mieux, hein, franchement. Tant du côté des femmes que du côté des hommes. Faut pas oublier que la plupart des putains sont elles-mêmes frustrées, hein. Elles ont manqué d'affection. Moi, personnellement, j'avais l'impression que je me vengeais aussi en faisant le trottoir. J'avais des fantasmes qui étaient tellement réels que moi, je les voyais presque se matérialiser devant moi certaines nuits. C'est abominable à dire, mais ma pauvre maman, qui n'est pas responsable, qui avait été éduquée à l'ancienne, très strictement, qui m'avait empêchée de vivre, hein, moi je la voyais, je te dis, hein, un certain temps, toutes les nuits, je la voyais sur le trottoir. Hein, et je la faisais avancer à coups de pied, moi. Je disais, marche, marche. Et c'était moi qui marchais en réalité. Hein. Et ce que j'ai vu, moi, en connaissant toutes ces merveilleuses putains de Paris, ce que j'ai vu, c'est qu'ils avaient un cœur qui les dépassait, quoi. Un cœur qui n'a plus de limite et une affectivité qui n'a pas de limite. Alors, elles reportent ça sur tout, hein. Sur leurs copains, leurs copines, leurs enfants, leurs chiens, leurs plantes, enfin tout. Tout est prétexte à aimer et à se sentir entouré, quoi. Ils ne supportent pas la solitude.
On s'est connus au meeting de la mutualité.
Ouais.
Qu'est-ce que tu faisais, là?
Tu veux dire que c'était un océan humain déchaîné, hein.
Oui, tu vois, c'était intense, ça aussi.
C'était dingue, hein.
On va couper la chic aux journalistes.
Ah, j'ai trouvé que c'était très beau. Parce
pour
que
se consacrer sur... rester sur la voie de Griselidis Réal.
Griselidis Réal. Ce nom, déjà magique.
C'est vrai.
Moi, je ne l'avais jamais entendu avant le 25 août dernier, donc ça fait à peine 2 semaines. J'étais à Douarnenez à un festival qui s'appelle... Enfin, le festival du cinéma, et c'était thématique suisse, Helvet Underground, et donc à mettre en valeur les réalisateurs, réalisatrices et autrices suisses, dont Griselidis Réal fait partie. J'écoute, je suis complètement fascinée, et tout d'un coup, je sens une espèce de similitude de pensée avec Quenouille Milady. Et donc, je lui dis, Griselidis Réal, ça te cause. Et là, elle m'envoie à mes chéris.
100 000 choses.
C'est une de mes autrices phares depuis XXXX. J'ai organisé un festival ciné, écriture autour d'elle, blablabla. Bla, bla. Et là, elle commence. Voilà, donc je sentais bien la connexion. Donc, ça ne m'étonne pas qu'elle envoie ça. Et je trouve que c'est un beau clin d'œil. Et justement, je lui ai envoyé, je reprends du coup le fil de notre discussion. C'était pas trop prévu. Mais en fait, il y a eu un chouette projet autour d'elle qui s'appelle la Bibliothèque sonore des femmes. Et c'est un projet de Julie Gilbert, qui est une autrice franco-suisse, et qui a en fait imaginé une bibliothèque sonore, c'est une installation littéraire pour faire entendre ou réentendre des écrivaines d'aujourd'hui disparues à travers des monologues inventés, écrits par des autrices contemporaines, édites par téléphone. Comme un appel de l'au-delà. Donc génial, en fait, on appelle un numéro et puis on se retrouve voilà, en connexion avec Griselidis Réal. Il y a aussi Olympe de Gouges, il y a Catherine Colomb, Audrey Lorde. Enfin voilà, super. plein d'autrices.
Tu nous donneras les... Où est-ce qu'on peut appeler ça ?
La bibliothèque sonore des femmes.net. Et là, il y a toutes les informations.
Je le mets de suite sur la page Facebook.
C'est ça, notre community manager.
Ah, à fond.
C'est marrant parce que le Rideau de Bruxelles, qui est un théâtre, a fait la même chose pendant le Covid. Donc, il y avait toute cette période-là, les personnes du théâtre ont pu... Enfin, les citoyens pouvaient appeler. Et donc, il y avait les
Quenouille Delphine au Brutal Chips. On en parlait depuis tout à l'heure.
Les acteurs et les actrices qui pouvaient répondre aux citoyens. Donc voilà, c'est drôle.
Bon, et maintenant, je reprends le pouvoir pour un passe-droit en live. Pour l'anecdote, sachez que j'avais préparé un truc il y a un mois pour l'émission des Quenouilles sur l'omoplate. Pour des raisons techniques et de vacances, ça n'a pas pu
tout
se faire.
Tout est de ta faute. Hein.
Tout... Bon, enfin. C'est donc, comme ma participation a échoué malgré la volonté et les efforts, je vous resserre ce texte. Omoplate. Ici, enregistré avec les grillons et la rivière depuis l'Ardèche, c'était bien les vacances.
Mortelle randonnée. J'ai connu une omoplate. Elle a servi de palimpseste pour y apposer mon profil. Je l'avais détourée et inscrit sur ce tambour tendu, étiré sur le plat de l'os. Je croyais dessiner une page blanche, mais je tatouais un stigmate, une fusion cupidon sur ce tombeau tendu. Aujourd'hui, je sais que je ne dessinais qu'un vestige, un oracle de ma chute de Rome. Je me marquais comme une silhouette, effacée dans son dos, un mauvais sac à dos ouvert au pillage. Omoplate, côte de porc, échine lardée, omoplate, riz de veau obscène, plat de côte, omoplate ou gazeuse, chant du coq, arrivée d'eau, omoplate, mauvais gémir, contraire d'épaule, omoplate, garde-côte, plan hors sec, omoplate, corps sans viande comme une trique, os page sans message, omoplate, nerf de bœuf, se donner en pâture, omoplate, racloir du tendre mal nommé, rien qu'un os à ronger.
Et maintenant, c'est Aliette. Aliette au pop-corn et à la présentation des actus.
Bah parce qu'il y en a plein là, en fait. Alors j'y vais très vite parce qu'il reste une minute. Dimanche 11 septembre, ouverture de la Maison Poème à Saint-Gilles, rue d'Écosse, numéro 40. Il y aura des performances, des ateliers, un mini-marché, de la restauration, de la fête et même un karaoké. Et aussi, du 19 au 24 septembre, aura lieu le Festival Fame à Bruxelles. Un festival, pas un, le festival quand même. Comment j'ose. Non mais c'est les pop-corn, vous me déconcentrez. Pensez en féministe où je m'occupe plus particulièrement des dispositifs de relations et de rencontres avec les publics. Et je voudrais vous inviter mardi 20 septembre à 17h au Centre Tour à Plomb pour la fin des haricots avec Quenouille, Christine Aventin et Alice Rivière. Voilà, est-ce que j'ai encore le temps à part dire le mot, le prochain mot qui est étamine et aller voir le site du Festival Fame, il y a plein de trucs, le et le site de la Maison Poème. Le 5 octobre, étamine avec les...